Nous allons avoir maintenant les lectures sur lesquelles s'appuie le message qui nous sera apporté par Philippe. La première lecture est dans le chapitre 11 de la Genèse, les versets 1 à 8. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ils ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils projetteraient. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns et des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville.
Le deuxième texte se trouve dans Actes 2, versets 1 à 8. C'est Dieu qui unit et rassemble les hommes par la compréhension des langues. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ?»
Et le troisième texte, dans Luc au chapitre 9, versets 51 à 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. »
Bonjour, chers amis, bonjour à tous ceux et toutes celles que je n'ai pas eu le plaisir de saluer. Lorsque notre pasteur Roger m'a invité à participer à notre méditation aujourd'hui et que j'ai constaté que la date tombait sur le dimanche de la Pentecôte, je me suis demandé, au fond, mais que n'a-t-on pas déjà dit et redit sur ce sujet? Et que pourrais-je ajouter à ce que tout le monde sait déjà? Et je demeure pourtant préoccupé par la question de l'inspiration, mot difficile à définir, si nous y réfléchissons, parce que notre âme, notre être intérieur, c'est déjà difficile à définir l'âme et le psychisme, c'est pas tout simple. Mais enfin, disons notre âme, ce qui fait qu'on est vivant et non pas des cadavres, Dieu merci. Notre âme est sujette à des influences diverses, autant intérieures qu'extérieures à nous-mêmes. Nous en avions déjà parlé autrefois, et je ne vais évidemment pas allonger sur cet aspect précis. Mais sur le thème de la Pentecôte, j'ai imaginé, en y réfléchissant, que je pourrais, à la place d'un message, vous donner un slogan. À la place d'une réflexion et d'un développement, je vous donnerai un slogan qui résume tout. Mais mon message durerait exactement 4 secondes. Ce sera un peu léger. Et le slogan aurait été, je vais quand même vous le donner, le slogan aurait été « L'inspiration, il ne faut pas en parler, il faut la vivre. » Peut-être, mais quand on sait les âneries qui ont été dites ou faites par des gens qui se disent ou se croient inspirés, on retombe un peu vite sur nos pieds. Et donc, je vais vous prendre tout de suite un exemple avec le dernier texte que nous avons lu. Vous l'avez encore le plus proche en mémoire. Les autres, vous les savez par cœur. Eh bien, dans ce texte, nous avons vu que des disciples qui n'étaient pas des manches, Jacques et Jean, c'était pas des manches dans leur apostolat, ils étaient des fidèles, des compagnons de Jésus, ils avaient vu Jésus agir pendant tout son ministère, et devant l'opposition, « Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu du ciel qu'ils descendent et les consument ?» On sent la haute inspiration chrétienne, particulièrement charitable. Allez, on fait descendre le feu du ciel pour les détruire. Voilà, ça c'est une évangélisation un peu particulière. Et ce qui me paraît dramatique, c'est que les disciples étaient sûrs d'être bien inspirés en disant cela. Et ça, ça pose un problème. Il y a un mois, j'ai lu à grand-peine un livre que j'ai ici, qui a été écrit par un psychanalyste, un certain Thierry de Saussure. Ceux qui sont médecins, ils connaissent ce nom. Et ce Thierry de Saussure a écrit un livre qui s'appelle « L'inconscient, nos croyances et la foi chrétienne, études psychanalytiques et bibliques ». Bon, le titre est déjà problématique. Alors, si vous souffrez d'insomnie, ça arrive, et que vous voulez économiser des frais de médicaments, eh bien, je vous recommande la lecture de cet ouvrage. Il m'a fallu un temps fou pour le lire, bien que moi, j'ai le privilège de connaître le vocabulaire utilisé, puisque anciennement, je devais m'occuper de ça, et je connaissais le vocabulaire, eh bien, j'ai eu des facilitations pour m'endormir extraordinaires. Mais il y a eu quand même quelque chose de bizarre, c'est que quand j'ai commencé la lecture de ce livre, je me disais, c'est peut-être une coïncidence que j'avais ce livre sur la pile que je voulais, des livres que je veux lire, parce que j'ai appris à peu près en même temps, quelques jours après, que je devrais parler sur l'Esprit Saint, sur l'inspiration. Et je me disais, ah ben, il y aura peut-être des idées intéressantes dans ce livre de psychanalyse sur le mécanisme de l'inspiration. Eh bien, après sa lecture, j'ai déchanté, car il ne dit rien de l'Esprit Saint, malgré un titre relativement alléchant ou intéressant. Et peu de temps après, avec mon épouse, nous sommes partis en Ardèche, et une jolie région, nous sommes allés visiter différentes choses, et notamment, nous sommes allés revisiter le musée du désert. Le musée du désert, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'un petit musée qui est dédié à la persécution des protestants sous l'Ancien Régime en France. Et là, j'ai eu une révélation de l'esprit que je ne connaissais pas, à laquelle je ne m'attendais pas. Je vous donne un contexte historique très bref du thème de ce musée. Et je vous recommande vivement alors d'aller le voir. Dans un climat très, très houleux, après la Réforme, il y avait les guerres de religion, il y avait un climat d'opposition entre les réformés et les catholiques traditionnels, ça n'allait pas bien, ça a duré longtemps. Et un des rois de France, Henri IV, a signé en 1598, donc c'est pas très récent, et par intérêt politique, il a signé un édit de tolérance envers les protestants, pour essayer de mettre fin à ces bagarre sans nom, et c'était le fameux édit de Nantes. On a tous entendu parler. Or, en 1685, donc un peu après, Louis XIV a accédé au pouvoir et a modifié, donc la donne politique était complètement modifiée, et Louis XIV a promulgué un nouvel édit, l'édit de Fontainebleau, qui révoque l'édit de Nantes et qui dit non, les protestants n'ont plus le droit de citer. Et donc, ça a déclenché une terrible persécution contre les protestants. Il faut entendre les protestants dans le sens évangélique. J'étais très frappé, en parcourant ce musée, à la lecture des décrets royaux hostiles aux réformés. Leur but était de nier l'existence des réformés dans tout le royaume. Alors, pour cela, on éliminait leur nom des états civils. Plus de mariages, plus de naissances, plus d'enterrements, plus d'actes notariés d'aucune sorte, plus rien du tout. Les soi-disant réformés, comme ils les appelaient, vous n'existez plus en vertu de la loi. Et cela, malheureusement, avec le soutien appuyé de l'Église chrétienne, qui à cette époque, malheureusement, était très étroitement lié au pouvoir politique. Donc, dans une France dite chrétienne, on niait l'existence d'un courant de pensée chrétien. Et donc, ceux qui ont eu le malheur de résister ou de faire une remarque, eh bien, ils étaient impitoyablement pourchassés, emprisonnés, tabassés jusqu'à la mort, pendus, arquebusés, c'est-à-dire fusillés. On leur donnait parfois le choix, comme une grâce, s'ils voulaient être pendus ou arquebusés. Envoyés aux galères à perpétuité. Et il y aura environ 3000 chrétiens galériens. Et l'un d'entre eux, un seul, semble-t-il, a survécu assez longtemps à ce supplice. Après sa libération, il a eu assez de temps de vie pour écrire ses mémoires. Il a subi le supplice pendant 12 ans. Il a été libéré par la reine Anne d'Angleterre en 1713 et il a vécu longtemps, jusque vers l'âge de 90 ans, ce qui est très rare chez un galérien à cause des mauvais traitements, pour écrire des mémoires fort intéressantes. Il s'agit de Jean Martel. Il était très rare pour des forçats galériens de survivre plus de 3, 4, 10 ans maximum au mauvais traitement, parce qu'ils avaient beaucoup de privations. Le motif officiel de la condamnation de Jean Martel, eh bien, c'était qu'il s'est trouvé à la frontière sans passeport. Il fuyait, bien entendu, la persécution. Il a été trouvé à la frontière sans passeport, donc galère à perpétuité. Bien entendu, c'était un motif officiel. Le vrai motif, c'est qu'il était protestant dans ce régime absolument totalitaire, néanmoins réputé chrétien. Contrairement au livre de psychanalyse, qui fut pour moi donc un excellent somnifère, le livre du galérien, même nombre de pages, même volume, était un excellent stimulant, plus fort que 3 tasses de café avant de se coucher. Et il m'a empêché de dormir tant il m'a passionné. Et pourtant, ces deux livres ont quelque chose en commun. Ils ne parlent ni l'un ni l'autre du Saint-Esprit. Pas un mot. Je me serais attendu à ce que dans les deux livres, on parle du Saint-Esprit. Pas un mot. Et donc, il y a dans le livre de psychanalyse des descriptions de mécanismes psychiques issus des textes de la Bible. Le livre du Galérien y décrit des mauvais traitements, épouvantables traitements qu'il a subis, et il décrit une vie socialement perdue. Mais, dans le livre du Galérien, il y a une démonstration magistrale de la présence et de l'action de l'Esprit-Saint au travers des douleurs et des souffrances endurées par les forçats chrétiens. Évidemment, par définition, un esprit ne peut pas être vu ni décrit dans sa substance sous réserve de signes exceptionnels comme la colombe, signe de l'esprit qui s'est posé sur Jésus à son baptême, ou lorsque le bruit impétueux et perceptible s'est manifesté à la Pentecôte, là, il y avait quelque chose de visible ou d'audible, ou parfois dans la Bible de visions angéliques, de visions où on voit un esprit, un ange. Mais si on ne peut pas décrire un esprit, on peut l'identifier par ses effets, comme l'arbre peut être identifié aux fruits qu'il porte. Du reste, l'apôtre Jean nous exhorte en ces termes. Mes bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Alors le célèbre récit de la tour de Babel que nous venons de lire montre un contexte social exceptionnel pour nous, même inconnu de nous, dans le fait que dans tout le monde antique, il y avait la même langue. C'est extrêmement étonnant, ça. Pas de dialecte, tout le monde parlait le même langage. Donc, on pourrait dire que ça favorisait la communication entre les gens. C'était plutôt bien. On n'a pas besoin d'apprendre les langues, on peut communiquer facilement. Moi, j'ai eu de la peine pour les langues. Eh bien, bon, on peut se dire que c'était facilitant. Mais ce qui ne va pas, c'est la finalité donnée à cette communication. La finalité donnée, c'est de se faire un nom qui atteint le ciel, c'est se diviniser soi-même, et c'est classique, c'est le prototype du péché, donc l'opposé au projet de Dieu. Et là, c'est Dieu qui va diviser les hommes au moyen du langage. Il serait très réducteur de penser que Dieu unit et Satan divise, et puis on a tout compris. Non, non, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Et en l'occurrence, c'est Dieu qui va diviser les hommes au moyen du langage. Ils ne se comprennent plus. Est-ce là l'origine des 6000 langues et idiomes et dialectes qui existent aujourd'hui? Il paraît qu'il y a 6000 langues et dialectes aujourd'hui sur la Terre. Est-ce l'origine du dicton populaire « diviser pour régner » Peut-être. Quoi qu'il en soit, un projet est très vite par terre quand on ne peut plus communiquer. Et je ne vais pas développer cela, mais dans les grandes entreprises où la communication ne marche plus, ça ne va pas longtemps. Et donc, relevons qu'à Babel, Dieu a divisé et affaibli les hommes par le langage, la diversité des langages, et à la Pentecôte, Dieu va réunir et fortifier les hommes par le langage également. Non pas en leur donnant un langage uniforme, en leur donnant un seul langage, mais en rétablissant la communication entre des hommes et des femmes, bien sûr, de langages différents, de cultures différentes. Et cela en revêtant une poignée d'hommes, pas forcément de grandes cultures intellectuelles, mais en les revêtant de la capacité de parler diverses langues qu'ils n'ont jamais apprises. Et c'est totalement extraordinaire. Il ne vous aura pas échappé que cette miraculeuse capacité des langues étrangères leur a été donnée avec le sujet de conversation. En d'autres termes, cette capacité ne leur a pas été donnée pour étayer le petit commerce artisanal ou faire des affaires, comme dans tout événement, on fait des affaires avec les produits dérivés. Pas du tout. C'était pour parler des merveilles de Dieu. À l'évidence, l'Esprit nous parle des merveilles de Dieu et nous en donne les moyens, notamment au nombre des merveilles de Dieu, la prêtrise de Jésus-Christ. Et des manifestations surnaturelles suivent, c'est toutes les actes, etc., où ces manifestations surnaturelles accréditent la présence de Jésus-Christ, délégué à l'Esprit-Saint, si l'on peut dire. On n'est pas loin du paradis. Tout semble marcher comme sur des roulettes. Et donc on voit le Saint-Esprit dans les effets qu'il produit. Et ces effets nombreux sont les véritables vertus chrétiennes en accord avec la parole. Par exemple, je vous en cite quelques-unes, sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance et crainte de l'Éternel, qualité auxquelles on peut associer sans risque de se tromper, vérité, courage, justice, paix, consolation, réconciliation, prophétie, amour, joie. Mais revenons à notre galérien, Jean Martel. Il a côtoyé pendant 12 ans la mort. Côtoyé la mort. Des supplices, la sous-alimentation, le froid, les maladies. En quoi montre-t-il la présence du Saint-Esprit? En quoi démontre-t-il le Saint-Esprit? Comment imaginer que le Saint-Esprit devienne visible dans des conditions si médiocres? À première vue, il n'a qu'un pagne, comme habillé, il rame avec des bancs, ils sont 6 pour tenir la rame, des grosses rames lourdes, et il rame sous les coups, ils étaient cordés, et ils étaient tabassés à coups de cordes. Et on ne leur parlait pas, on leur parlait avec un sifflet, et ils devaient écouter le sifflet, faire ce qu'on leur disait avec ces coups de sifflet, un peu comme des chiens. Du reste, les responsables de galère les appelaient volontiers les chiens. Et parmi les autres qui sont là avec eux, il y a des voleurs, des assassins. C'est clair qu'il y a aussi des gens de droit commun qui sont aux galères, qui sont punis. Mais eux, les chrétiens, ne sont pas punis. Ils n'ont pas la même opinion que l'opinion officielle. Alors, que fait-il, Jean Martel, que fait-il de plus que ses compagnons d'infortune? Alors, il faut une explication pour comprendre. Ils sont tous au même régime et une galère ne peut fonctionner que si les forçats sont tabassés par un gardien pendant son fonctionnement. Il faut tellement d'adrénaline dans le corps pour soutenir l'effort qui est demandé que seule la crainte de mourir génère cette adrénaline. Quand vous êtes tranquille, vous n'avez pas cette force. Quand vous êtes sous un stress de l'imminence de la mort, vous avez une force surnaturelle. L'auteur précise qu'en 1703, des galères ont été préparées pour les faire manœuvrer par des marins civils libres, bien nourris, entraînés. Impossible. Ils n'ont jamais réussi à les manœuvrer. Ils ne pouvaient pas fournir l'effort nécessaire parce que même s'ils étaient bien nourris, ils n'avaient pas ce supplément d'adrénaline. Et on peut dire que les forçats, ils avaient comme nourriture du pain, du vinaigre et de l'eau. Et en plus, on leur donnait des fèves noires, mais les fèves noires étaient tellement dures qu'ils ne pouvaient pas les manger. Donc, ils n'avaient que du pain et de l'eau et du vinaigre. Donc, c'est dire que pour la force, ce n'est pas terrible, mais le supplément d'énergie venait du fait d'être menacé d'une mort imminente. Alors, autant vous dire que les galères étaient un enfer insupportable, et chaque galérien n'avait qu'un rêve, c'était de s'en évader. Mais une cruauté était encore ajoutée au mauvais traitement physique. C'est que pour les forçats, notamment chrétiens, protestants, un émissaire de l'Église officielle, totalitaire, disons, venait très régulièrement leur rappeler que dès qu'ils signeraient un petit papier disant « je renonce à ma foi, je rejoins l'Église officielle », ils étaient libérés dans les 15 jours. On venait leur rappeler ça tout le temps, catéchiser avec ça. Et donc, la manière dont ces forçats de la foi refusaient la libération montre que l'Esprit-Saint, bien que jamais mentionné en toutes lettres dans l'ouvrage, agit en eux en sous-marin, comme Dieu agit en sous-marin sans être cité dans le livre d'Esther. On le voit agir dans le comportement des serviteurs de Jésus-Christ qui préfèrent mourir que de renier Jésus, objet de leur foi et de leur amour. Dans le témoignage de Jean Martel, on voit comme à l'œil les caractéristiques de l'Esprit-Saint manifestées dans son comportement. Le courage, la force de conviction, la persévérance dans la vérité, la résistance à la vengeance personnelle, la douceur, la maîtrise de soi, et surtout cette résistance incroyable devant la tentation d'être libéré en contrepartie du reniement. À l'évidence, pour les forçats de la foi, le combat de la foi est un combat pour rester croyant, attaché à Jésus, dans les situations les pires et au-delà de toute la capacité humaine naturelle. Alors, la question c'est, est-ce que ça nous concerne? Parce qu'au fond, grâce à Dieu, nous ne sommes pas devant le risque d'aller aux galères perpétuelles. On emploie souvent le terme, hein, c'est galère. Hein, c'est galère, oui, ben moi je ne l'emploierai plus, après ce que j'ai lu. Je ne dis plus, ah, c'est galère, hein, on n'a pas eu à manger à l'heure, c'est galère. Ben, quand on lit le récit des galères, on n'ose plus employer cette expression. Alors nous ne sommes pas devant le risque des galères, mais on est assurément devant le risque d'une certaine persécution rampante, administrative, du politiquement correct, des groupes de pression, d'autres religions, des quolibets, de la disqualification dans la presse. Bon, Jésus est très clair, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ça fait partie de la vie chrétienne. Mais je me surprends parfois à rêver que l'Esprit-Saint nous rende la vie chrétienne facile, la vie chrétienne triomphante, voire agréable. On aime bien le Saint-Esprit quand il nous donne des victoires sur l'adversité, quand il nous guérit, quand il nous sort d'un mauvais pas. Or, comme vous, je lis le journal Vivre, organe de nos églises évangéliques, et j'ai pour ma part, en tout cas personnellement, été très étonné de lire sous la plume de Jean-Claude Chablot, aumônier au Palais fédéral, chrétien évangélique très enraciné. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent Jean-Claude Chablot, qu'après une enquête sérieuse, seulement 5% des gens pour la guérison desquels nous prions sont guéris. Si ce n'est pas triomphant, c'est au moins honnête. Or, parfois, on peut se trouver dans les galères de nos temps modernes, enchaîné à quelque addiction, à quelque maladie, à quelque problème de vie qui n'en finit pas. Et on n'a pas l'habitude de voir l'Esprit-Saint dans la souffrance. Et pourtant, n'est-ce pas le modèle que Jésus nous offre dans une grande partie de son ministère? Nous référer pour cela à la magnifique présentation que nous avions dimanche dernier, marque l'expérience. Alors, on va conclure sur une considération actuelle. J'ai dit que Dieu étant souverain, il peut tout autant unir que séparer. Unir ou diviser. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais il montre, il dit dans sa parole, que les genres, hommes et femmes, sont différenciés, sont distincts et complémentaires. Pas faire une guerre, hein. Les genres, hommes et femmes, sont différents. Pour que leur relation engendre la vie. Et Dieu ne dit pas que tout est équivalent. Et que toute distinction est en fait une discrimination. Dieu ne dit pas ça. L'équivalence de tout avec tout, c'est un retour au chaos. Une théorie à la mode, qui justement a été un peu illustrée ce week-end, c'est pour ça que je réagis, est une théorie du genre. Une théorie du genre dit en fait que lorsque nous naissons, nous ne sommes ni masculins ni féminins, psychologiquement. Hein. Seule notre culture nous oriente comme homme ou comme femme. Par conséquent, les notions de garçon, de fille, devraient être bannies de l'école. De même pour les termes homme ou femme, masculin ou féminin, ne dites pas papa ou maman, dites parent 1 ou parent 2. Enfin, on le lit, hein, on le lit dans la presse claire. Hein. Parent 1 ou parent 2. Et la conséquence est une logique sans faille. Le mariage n'a plus rien à voir avec le sexe biologique, puisque homosexualité, hétérosexualité reviennent au même, ce qui compte, c'est l'amour entre les gens. Alors, si ça, ça devient légal, je me réjouis de voir comment est-ce qu'on va réagir, et que nos pasteurs surtout vont réagir. Pour être bien sûr de me faire comprendre, j'entends préciser que tout le monde est bienvenu dans l'Église. Bien sûr, tout le monde est bienvenu. Mais pour y recevoir l'enseignement de la parole de Dieu, et non pour discuter de philosophies qui pourraient lui être contraires. Pour ces philosophies, il y a des bistrots bien plus nombreux que les églises à Genève. Je vous cite encore la première phrase d'un petit article paru dans le dernier numéro de Christianisme Aujourd'hui. Christianisme Aujourd'hui, journal très connu. Éducation. Deux points. Les évangéliques sur le banc des accusés. Transmettre la foi à un enfant n'est pas compatible avec le développement de son autonomie. L'éducation évangélique présente des risques pour l'enfant. Et donc, ce thème est développé dans un rapport de 60 pages, publié par deux instances de protection de l'enfance et de défense des consommateurs. C'est magnifique. Est-ce que nous sommes concernés ? Prenons garde de discerner les temps dans lesquels nous sommes. Comme signe numéro un, quand les apôtres ont dit « Mais à quel signe on reconnaîtra ta venue ? Dis-nous à quel signe on va voir que ces choses arrivent » Qu'est-ce qui répond Jésus ? Prenez garde d'être séduit. C'est ce qu'il dit. Prenez garde d'être séduit. Gardez-vous d'être séduit. Ce n'est pas une Pentecôte grandiose que je vous souhaite. C'est une Pentecôte de communion avec Jésus qui a renoncé à la gloire pour nous rencontrer parce qu'il nous a aimés, qui a envoyé son esprit produire une conviction inébranlable dans la vie de ses disciples. Je cite un dernier verset. « Et maintenant, Seigneur, dans un contexte peut-être différent, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Alors, toute similitude mise à part, faisons nôtre ces prières. Amen.
Merci.